VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Kenya, la Haute Cour de justice a déclaré aujourd'hui nulle et non avenue la décision du gouvernement de fermer le camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, et de renvoyer dans leur pays les réfugiés somaliens. Nairobi, qui peut faire appel de cette décision, avait pris de court les réfugiés, les agences humanitaires, l'ONU et les partenaires occidentaux du Kenya en annonçant le 6 mai 2016 sa décision de fermer Dadaab. Le Kenya avait initialement annoncé vouloir fermer le camp fin novembre 2016, mais avait repoussé cette fermeture au 21 mai 2017 à la suite d'une requête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. RCA, de nouveau déplacé à l'aéroport international de Bangui. Les récentes violences dans le quartier musulman de PK5 ont poussé de nombreuses familles à regagner ce site fermé il y a quelques jours. Pourtant, beaucoup de déplacés auparavant installés dans le secteur de l'aéroport avaient regagné leur foyer ou de nouveaux logements dans le cadre de l'opération Noël à la maison, initiée par le gouvernement centrafricain. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Le site de Poko accueille de nouveau depuis hier soir des retournés. Plusieurs familles, hommes, femmes et enfants, ont regagné leur ancien lieu de refuge avec tout ce qu'ils ont pu sortir de leur maison. Cette femme, ses trois enfants et ses petits-fils se sont installés sous un manguier car les autorités interdisent la construction de nouvelles huttes.
Maintenant qu'on dort comment? On ne sait pas comment on dort avec les enfants tout là. Il faut que le gouvernement se fasse un effort pour libérer le quartier.
Nombreux sont encore favorables à un retour volontaire dans leur quartier, mais à une seule condition, le désarmement des groupes armés.
C'était la gendarmerie qui a fait son travail. Mais maintenant, les hommes armés, ils sont venus. Ils ont commencé à tirer. Ils ont brûlé nos maisons. Qu'on désarme 5 kilos, on désarme la République centrafricaine en général.
Cette situation constitue une nouvelle épine dans les pieds du gouvernement. Le ministre de la Sécurité et celle des Affaires sociales étaient dans la matinée à la rencontre de ces personnes. Jean-Serge Bokassa appelle au calme et annonce des mesures pour sécuriser le PK5. Pour empêcher la construction de nouvelles huttes sur ce site, la police et la gendarmerie sont déployées sur les lieux. La mort d'un influent chef d'une bande armée du PK5 dénommé Big Man, tué mardi au cours d'une opération conjointe force de sécurité centrafricaine MINUSCA, a entraîné des représailles. Le bilan provisoire fait état de près d'une dizaine de morts, dont un pasteur. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En RDC, l'opposition prend position. Pas de retour du corps d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique dans le pays, avant le prochain gouvernement de large union nationale. L'UDPS, le parti du défunt politicien, a également décliné l'offre du gouvernement de prendre en charge les obsèques du leader de l'opposition. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a exprimé son désaccord au sujet des conditions posées par l'opposition congolaise.
C'est un mélange de genres. D'abord, nous ne nous avons pas saisi officiellement. C'est une déclaration dans les médias. Nous avons été avec le secrétaire général adjoint de l'UDPS lors de cette réunion avec la famille de M. Tshisekedi, représentée par son frère cadet, l'évêque de Mweka, Mgr Moulumba. Et donc, nous ne traitons pas avec l'UDPS par communiqué de presse interposé. Nous n'avons pas encore reçu cette communication. On peut supposer qu'il s'agit d'un problème de querelle interne à ce parti. Et donc, nous n'avons aucune réaction. Jusque-là, c'est tout de même assez irresponsable pour nous qui sommes africains, nous qui sommes bantous, que pendant un deuil, on puisse soulever des problèmes politiques. Nous n'avons pas discuté des questions politiques lors de ce débat. Et de toute façon, même les évêques nous ont demandé de suspendre toutes les discussions et de ne répondre qu'après l'enterrement de M. Tshisekedi, ce qui nous paraît tout à fait conforme à nos traditions et à la décence même.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, les discussions entre le gouvernement ivoirien et les militaires des forces spéciales devraient se poursuivre normalement aujourd'hui pour mettre fin à la mutinerie de ce corps d'élite qui a commencé mardi. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable du ministère ivoirien de la Défense. Les négociations avaient commencé hier entre les mutins et les grands commandements de l'armée à la suite d'un mouvement de protestation des forces spéciales basées à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan. Le calme est revenu maintenant à Adiaké. Selon l'AFP, les commerces et les écoles ont rouvert. Sénégal, une des branches armées du mouvement indépendantiste Casamance, dans le sud du pays appellent à un règlement pacifique et définitif de la crise qui dure depuis plus de 30 ans. Dans un communiqué récemment rendu public, le groupe appelle néanmoins à une réunification du mouvement indépendantiste divisé depuis la mort de son leader, l'abbé Diamakoun Sangor. Le journaliste et spécialiste de la Casamance, Ibrahim Agassama, nous parle tout d'abord de la branche Diakaï qui vient de lancer cet appel aux négociations.
Il faut dire que Diakaï est une branche de l'aile sud du MFDC, mais d'abord c'était l'ancien Front Nord, puisque au début de la rébellion, le tout était concentré au sud avec la frontière avec la Guinée-Bissau. Et c'est en 92, à l'issue de négociations avec le gouvernement, que des accords ont été trouvés et que ce front a été délocalisé et s'est installé dans cette partie. Diverses activités étaient financées, économiques, particulièrement par l'ancien régime, sous Diouf. Et il y avait une espèce justement que l'on exploitait qui s'appelait Diakaï et le nom est resté.
Alors cette faction de Diakaï estime qu'il faut une réunification des différentes factions du MFDC pour parvenir à des accords de paix. Pourquoi cette réunification est importante ?
Parce que le MFDC est divisé et cela depuis la disparition du leader charismatique de ce mouvement qui est l'abbé Augustin Diamakoun Senghor. Alors depuis sa disparition, il y a eu des querelles de leadership, autant dans l'aile politique civile avec le poste de secrétaire général. Ensuite, l'aile militaire qui s'est éclatée en plusieurs parties. Et aujourd'hui, c'est lui, Salif Sadio, qui négocie avec l'État du Sénégal. Et cette ouverture vers l'État de Salif Sadio a créé des problèmes au sein des autres factions du MFDC qui estiment que Salif Sadio ne peut pas parler en leur nom. Ils font un MFDC unique qui ira donc avec un seul interlocuteur rencontrer l'État. C'est un peu cela le blocage.
Alors le gouvernement sénégalais n'a pas encore officiellement réagi, mais quelle devrait être sa posture ?
Oui, mais d'abord par rapport à ce communiqué, moi je pense que le discours n'est pas nouveau, puisque je l'ai dit depuis 92, cette aile a été pacifiée. Aujourd'hui je pense que l'aile dure du MFDC, le noyau dur, il faut surtout aller vers Salif Sadio, César Badiat et Ibrahima Kompas Diatta. Je crois que ce sont ces factions aujourd'hui qui pèse lourd, hein. Le mot n'est pas de trop sur la balance du processus de résolution de cette crise, mais la zone des palmiers a longtemps été une zone pacifiée où des armes ont été déposées, où même les combattants étaient pour certains dans des familles et menaient des activités quotidiennes.
Le journaliste Ibrahima Gassama au micro d'Abdourahmane Dia. Au Mali, suite à l'enlèvement de la Colombienne Gloria Cecilia Orgoti, deux suspects ont été arrêtés par la gendarmerie et le chemin emprunté par les quatre assaillants est désormais connu. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Depuis l'enlèvement de la sœur Gloria Cecilia Orgoti, les éléments de la garde nationale et de la gendarmerie ont intensifié les recherches. C'est ce qui a permis l'arrestation de deux suspects dans la zone frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Avec l'aide des populations, les militaires maliens ont pu retrouver les traces des motos qui ont transporté les assaillants avec l'otage. Grâce à des indications, les limiers ont établi les circonstances d'Irab. C'est ainsi que nous apprenons que la sœur Gloria Cecilia Orgoti a été enlevée par un quatuor d'individus qui s'est introduit dans les chambres des religieuses avec des armes à feu et des coupes-coupes. Après s'être présentés comme des djihadistes, les quatre individus ont réclamé le coffre de l'argent et la clé de l'ambulance du centre de santé qu'ils utiliseront pour transporter la religieuse avant de finir leur route à moto. Le mercredi 8 février 2017, le véhicule a été retrouvé par une patrouille à un carrefour de la route nationale du côté de la frontière avec le Burkina Faso. Pour le moment, les recherches impliquent aussi des équipes de la gendarmerie, de la garde nationale et la population. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma va prononcer ce jeudi soir son discours annuel à la nation devant le Parlement au Cap, où plus de 400 soldats ont été appelés en renfort pour assurer la sécurité. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, s'est immédiatement offusqué de cette décision et parle de violation de la Constitution. Jacob Zuma doit rester chef de l'État jusqu'en 2019, mais il quittera son poste de président de l'ANC, le parti au pouvoir, à la fin de l'année, ouvrant ainsi la guerre de succession au sein de l'ANC. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.